Ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Mais juste avant, on va dire un mot de prière. On va demander à Dieu sa grâce sur nous ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu prends soin de nous. Seigneur, chaque jour, on peut compter sur ta présence dans nos vies. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que tu es parti. Et tu nous as dit, tu as dit à tes disciples que c'était ça qui était le mieux pour qu'on puisse recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit qui vit éternellement en nous et avec nous. Et Seigneur Jésus, merci de ce que tu es au ciel, mais que par ton Esprit qui vit en nous, tu agis, tu es présent avec nous. Ce matin, Seigneur, on s'approche de ta parole et on veut commencer cette nouvelle semaine en consacrant ce temps à toi, Seigneur. Et ma prière, c'est que tu puisses disposer nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire, à t'écouter, Seigneur, et qu'à travers les enseignements, les chants, les louanges, la prédication, tu puisses venir toucher nos cœurs ce matin, afin que notre zèle de vivre pour toi soit renouvelé ce matin. C'est notre désir, Seigneur, de vivre pour toi et de vivre pour ta gloire, à cause de tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ et parce que toi seul es digne d'être loué et adoré. Bénis-nous ensemble ce matin, Seigneur, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas, le cours d'Ancien Testament, c'est moi qui l'ai monté. Il y a quelques années, je l'ai enseigné déjà, et puis il y a certaines choses que j'aimais faire, que j'aimais rappeler dans le cours d'Ancien Testament, et je ne sais pas si Yannick a mis l'accent sur certains de ces aspects-là que moi j'aimais mettre l'accent, mais une des choses qui nous aide à comprendre l'Ancien Testament, c'est de savoir comment l'Ancien Testament est structuré. Premièrement, on voit quatre sections. On voit la première section, c'est le Pentateuque, les livres de la loi. Et j'aime voir le Pentateuque comme le fondement de tout le reste des Écritures. Le fondement, là où Dieu se révèle, la création, la relation avec l'être humain et cette relation-là qui vient à être brisée. Et par la suite, Dieu dévoile le plan rédempteur et les livres de la loi sont le fondement de tout le reste des Écritures. On voit la loi, on voit plus loin dans le Nouveau Testament que la loi est impossible, c'est impossible de même se soumettre à cette loi-là. On a besoin de quelqu'un qui vient nous délivrer de la malédiction qui repose sur nous dans la loi. Et tout le reste des Écritures découlent de la loi qui a été révélée. Dans les livres historiques, on voit que c'est l'application. On voit l'application de la loi au peuple d'Israël, précisément. Et puis, comment le peuple d'Israël, dans son ensemble, ne réussit pas à mettre en pratique la loi de Dieu, et à plusieurs reprises, va se détourner de l'Éternel, va tourner vers les idoles, et puis finalement, ça ne fonctionne pas. Et le respect de la loi en tant que communauté de peuple d'Israël est incapable. Ensuite de ça, on voit les livres poétiques où la loi est, où on voit l'appropriation de la loi au cœur de l'être humain. C'est là qu'on, dans les psaumes, dans Job, dans les proverbes, on voit davantage la loi qui est appliquée au cœur et on essaie de vivre une relation, d'entrer en relation avec Dieu, de respecter sa loi, de lui obéir. Et finalement, les livres prophétiques, on voit que le peuple tombe, le peuple ne réussit pas à respecter la loi de Dieu et Dieu va rappeler sa loi, appeler son peuple à la repentance et même annoncer une délivrance future. Et donc, tout est en rapport avec la loi dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est l'Ancienne Alliance qu'on voit. On a appris que c'était l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Et dans le Nouveau Testament, va arriver une nouvelle alliance. Mais là, on est dans les prophètes, avec le prophète Habacuc. Et il faut toujours se rappeler que le prophète Habacuc, puis les autres prophètes, tout ce qu'ils désirent faire, c'est rappeler la loi de Dieu pour que le peuple puisse se repentir et se tourner vers Dieu. Mais dans Habacuc, on voit un problème un petit peu plus évident, c'est que le peuple vraiment ne marche pas avec l'Éternel. Et il y a beaucoup d'injustice dans le peuple d'Israël. Alors, surtout, entre autres, en Juda. Alors, juste pour introduire cette leçon-là, j'ai fait un petit peu le lien avec notre vie contemporaine. Qu'est-ce qu'on vit? Souvent, on voit la souffrance, le mal autour de nous. Puis, en fait, souvent, lorsqu'on à la vue de la souffrance et du mal, il y a une question qui est soulevée. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi tu permets la souffrance, le mal dans le monde? Et quand ça nous touche personnellement, cette question-là devient encore plus rapide sur nos lèvres. Pourquoi moi? Pourquoi ça, ça m'arrive? Et en fait, tout être humain, souvent, lorsqu'on va évangéliser, lorsqu'on va vouloir annoncer l'Évangile, la première chose qui nous vient, une question qui est posée, « Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a de la souffrance puis du mal dans le monde? » Souvent, c'est ça. Et là, juste pour nous guider un petit peu, pour comprendre notre cœur et comprendre les gens un peu autour de nous, c'est quoi les présupposés derrière cette question-là? Premièrement, si Dieu existe, tel que tu le décris, Dieu est bon et Dieu est tout-puissant. Alors, si Dieu est bon et si Dieu est tout-puissant, pourquoi il y a du mal? La première question, Dieu est bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est bon, donc il ne veut pas que le mal arrive. Il ne désire pas que les gens vivent le malheur ou la souffrance. Deuxièmement, Dieu est tout-puissant, Dieu est au contrôle de toutes choses et il est capable d'enlever le mal. Donc, si Dieu est bon et qu'il ne veut pas le mal, et si Dieu est tout-puissant et capable d'enlever le mal, pourquoi il y a du mal? C'est ça la question, en fait. Et les présupposés derrière cette réflexion-là, c'est que Dieu est bon, Dieu est puissant, et le résultat, la conclusion, c'est qu'il ne devrait pas avoir de mal autour de nous. Et pour nous, les chrétiens, et ça, souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont remettre en question l'existence de Dieu, vont aller jusqu'à remettre en question l'existence de Dieu à cause de cette addition-là qu'ils font et la conclusion qu'ils mènent. Il y a du mal, Dieu n'existe pas. Intéressant, hein? Maintenant, pour nous, les chrétiens, on vit la souffrance et on ne vient pas nécessairement à cette conclusion-là. Dieu n'existe pas. On va probablement... Des fois, si certains chrétiens vont vivre des périodes où vont justement aller jusque-là et dire « T'es où, Seigneur? » Ça, c'est peut-être la première étape. « T'es où, Seigneur? T'es loin, t'es pas proche de moi. Si tu voyais ma souffrance, tu viendrais, t'interviendrais. » On n'en vient pas à renier Dieu, mais pour certains, ça pourrait arriver jusque-là. Mais on pose des questions, comme je disais, « Pourquoi ça m'arrive? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pourquoi Dieu n'intervient pas? » Et ne vient-il pas en aide dans ma détresse? Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul à vivre ces choses-là. Même dans les Écritures, ces gens, les prophètes, les gens qui faisaient partie du peuple de Dieu se posaient ces questions-là aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu même, dans sa grâce, a voulu que ces questions-là soient écrites dans sa parole pour que nous, on puisse aller y plonger les regards et découvrir les réponses que Dieu veut nous donner. Est-ce qu'on va avoir toutes les réponses? Jeff Lorrain a dit la semaine passée, non, on n'a pas toutes les réponses. Mais, en réalité, on va en avoir quelques-unes qui peuvent nous aider dans notre marche, à marcher avec le Seigneur à travers les souffrances. Et le livre du prophète Habacuc commence avec une question qui va surgir au milieu d'un découragement. Le peuple est complètement dans le péché, il y a de l'injustice au milieu du peuple, et il y a une question qui est soulevée, une question qui ressemble à une question qu'on peut se poser souvent. Et on va voir ensemble les questions d'Habacuc et comment Dieu va le réconforter par une réponse qui donne la joie. Les questions sont, on voit Habacuc au début du livre dans une détresse profonde, mais finalement à la fin, on voit son cœur dans la joie suite à ses interactions, ses questionnements envers Dieu et les réponses que Dieu va lui donner. Donc, on va juste, avant d'aller un petit peu plus dans le détail, on va juste essayer de voir un survol du livre d'Habacuc et résumer le thème du livre d'Habacuc dans cette phrase-là que je mets ici, que vous avez dans vos notes. Le thème du livre d'Habacuc, c'est « Lorsque Dieu semble ne pas agir selon ses promesses, la foi de son peuple peut défaillir. » Cependant, la foi est rétablie lorsque Dieu manifeste son plan en accomplissant sa parole. Et là, ce qui est important de retenir, c'est que Dieu a donné sa parole. Il y a des promesses qui ont été données. Et là, le constat qu'on fait, c'est il me semble que ça ne marche pas selon ce que tu nous as promis. Mais Dieu, par la suite, va venir réconforter encore une fois à travers sa parole, puis il va nous montrer qu'il accomplit. sa parole. Donc, juste pour nous situer un petit peu dans le temps, le prophète Habacuc, en fait, dans le chapitre 1, nous parle des Chaldéens, qui sont les Babyloniens. Et il en parle comme un peuple puissant, conquérant, dans le chapitre 1, les versets 6 à 10. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu l'histoire, les grandes lignes de l'histoire d'Israël, mais lorsqu'on arrive, je vais commencer par exemple avec la royauté, le roi Saül, ensuite le roi David, le roi Salomon, et là c'est la gloire du peuple d'Israël pendant plusieurs années par le règne de Saül, de David et de Salomon. Dieu va donner une gloire importante à son peuple, et c'est comme si en fait c'est Israël et la puissance mondiale à cette époque-là. Mais par la suite, le royaume est divisé, vous vous souvenez de ça? Royaume du Nord, royaume du Sud, on appelait le royaume du Nord Israël et le royaume du Sud Juda. Et puis, à travers ces deux royaumes-là, ce royaume divisé, il va se succéder des rois. Dans le royaume du Nord, on va voir seulement des mauvais rois qui vont se détourner de l'Éternel. Et dans Juda, par la grâce de Dieu, il y a des bons rois et des mauvais rois. Des fois, il y en a des meilleurs, des moins, d'autres après qui sont vraiment pas bons. Et ça va amener la déportation du peuple d'Israël du royaume du Nord en Assyrie. Et si je me rappelle bien, c'était aux alentours de 722 avant Jésus. Donc, déportation du royaume du Nord en Assyrie. Et le peuple de Juda, lui, par exemple, n'est pas déporté. Il reste là pendant une centaine d'années par la suite. Lorsqu'on parle des Babyloniens, on est dans la période où Israël, le royaume du Nord, était déporté en Assyrie, mais que le royaume de Juda est encore là. Les Assyriens étaient la puissance mondiale. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? Les Babyloniens vont prendre une certaine puissance et tranquillement conquérir les territoires assyriens. Et lorsqu'on parle des Babyloniens, de l'exil à Babylone pour le peuple de Juda, pour le royaume du Sud, c'est les Babyloniens à ce moment-là qui sont l'Empire. C'est l'Empire babylonien, c'est les Babyloniens qui sont au contrôle de l'Empire. Donc, lorsqu'on parle, on voit Habacuc, on voit que Babylone est puissant. Et c'est probablement pendant cette période de transition-là où Babylone prend de plus en plus d'espace et de puissance dans l'Empire et va arriver finalement à la chute la bataille de Carchemish en 605 avant Jésus. Et là, l'Empire assyrien va tomber. C'est la chute de Ninive, en fait, en 612, mais la bataille de Carchemish en 605. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la chute de Ninive, Ninive étant la capitale de la Syrie, vous vous souvenez de Ninive à cause de Jonas. Et pourquoi Jonas ne voulait pas y aller? Va-tu aller prêcher à un peuple puissant qui nous fait du mal? Il ne veut pas aller là. C'est une des raisons pourquoi Jonas ne veut pas y aller. Mais Ninive va tomber aux mains des Babyloniens en 612. Et là, on arrive justement dans cet espace de temps-là où on voit les Babyloniens prendre plus de contrôle. Donc, on se situe environ aux alentours de 610 avant Jésus pour le ministère d'Habacuc. Donc, ça vous situe un peu. Et donc, s'il y a un prophète qui parle, il va parler au royaume du Sud, à Juda, qui est encore à Jérusalem et au Sud. OK? Donc, ensuite de ça, l'auteur. L'auteur, on voit que c'est le prophète Habacuc, comme mentionné au début du livre. On a peu de détails sur Habacuc. Pas vraiment mentionné ailleurs, sinon dans des livres apocryphes, on mentionne son nom. Mais à part de ça, dans les autres livre des Écritures, on ne parle pas du prophète Habacuc, mais on comprend qu'Habacuc, avec les détails qu'on voit dans le livre, était probablement un contemporain des prophètes Sophonie et Jérémie, qui a probablement vu la chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens. Donc, ça, c'est le contexte. Pourquoi on voit tout ça? Parce que le prophète s'adresse au peuple à ce moment-là. Alors, c'est important de comprendre le contexte dans lequel le prophète écrit pour qu'on puisse mieux interpréter. Ensuite de ça, la structure du livre, on voit premièrement qu'il y a une foi défaillante dans un sens Habacuc. Pas qu'il va remettre en question l'existence de Dieu, mais il vit des difficultés dans son âme avec ce qu'il voit autour de lui. Et il va avoir un premier questionnement dans le chapitre 1, versets 1 à 4, et Dieu va donner une réponse en donnant l'annonce du jugement de Judas, dans les chapitres 1, les versets 5 à 11. Ensuite de ça, Habacuc a un autre questionnement qui va, on va voir ces questions-là au chapitre 1, 12 jusqu'à 2, 1, et la réponse que Dieu donne. Donc, deux discours, deux échanges entre Habacuc et Dieu, des questions et une réponse. Et finalement, on arrive dans le chapitre 3, qui est comme un psaume. C'est la prière de la foi. Et Habacuc va faire appel à la compassion de Dieu. Il va faire une confession de foi et déclarer sa confiance en Dieu. Donc, j'ai déjà survolé un petit peu le contexte historique. Et puis, donc, je pense que c'était assez clair pour à ce niveau-là. Mais juste pour clarifier un petit peu le contexte du peuple de Juda, le royaume du Sud dans ce temps-là. On peut aller voir 2 Rois 21, les versets 10 à 16. Je vais les lire juste pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce qui était le contexte de la vie du peuple à cette époque-là. 2 Rois 21. Les versets 10 à 16. Donc, c'est l'annonce de la destruction de Juda quelques années auparavant en raison d'un mauvais roi, le roi Manassé, qui était le fils d'Ézéchias. Et 2 Rois 21, verset 10, on lit « Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations parce qu'il avait fait, puis tout ce qu'avait fait avant lui, les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et donc, à cause du mal de Manassé, du roi Manassé, à cause du mal qu'il a fait, de s'être tourné vers les idoles, le peuple a suivi, et Dieu appelle le jugement et dit « Je vais abandonner le reste de mon peuple. Il va y avoir une destruction qui est certaine. La destruction de Jérusalem est certaine. Je vais la nettoyer comme on nettoie un plat. » Ça veut dire qu'il ne restera plus rien. Ça va être complètement dévasté. Donc, Dieu déjà annonce, à la suite du règne de Manassé, ce jugement-là. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 23, les versets 25 à 27, Dieu va rappeler ça. Après quelques rois plus tard, chapitre 23, verset 25 de 2 Rois, ça dit « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Donc, à la suite du règne de Josias était un bon roi qui a appliqué son cœur, qui est revenu à l'Éternel. Et on aurait pu penser que Dieu va dire hey, « Finalement, ça va bien, j'aurais pas besoin de les punir. » Non, Dieu va rappeler le jugement, verset 26. « Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Donc, même s'il y a eu un bon roi, après Manassé, l'Éternel va juger quand même. Il ne se détourne pas de cette décision-là de juger Juda et de dévaster Jérusalem. Alors, dans le message d'Habacuc, si on retourne dans Habacuc au chapitre 1, on va lire quelques versets dans ce livre pour mieux le comprendre. Mais le message d'Habacuc, premièrement, ce qu'on voit, c'est que Dieu manifeste sa gloire en punissant le péché. Et donc, souvent, on peut voir le jugement de Dieu comme une entache à sa gloire. Dieu n'est pas bon parce qu'il juge. Au contraire, c'est pas une entache à sa gloire, c'est plutôt une démonstration de sa justice, de sa sainteté, et Dieu se glorifie à travers en punissant le péché et à travers la condamnation qui est donnée envers le péché. Donc, le livre d'Habacuc va se dérouler comme un dialogue entre l'Éternel puis Habacuc, comme je disais. Et Habacuc va crier à Dieu, et l'Éternel va lui répondre, et on va regarder ce premier échange-là dans Habacuc 1, les versets 2 à 4. Première question, jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Ça va durer combien de temps tout ça? Et qu'est-ce qu'il pose comme question? On va le voir. C'est quoi qui se passe? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Vous voyez qu'on prie des fois comme ça. Hein? J'ai prié et je n'ai pas entendu de réponse encore. C'est combien de temps ça va durer, cette histoire-là? On continue, verset 3. « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de constater, Habacuc? C'est vraiment la violence qu'il y a dans Juda, les injustices, l'iniquité, le péché qui est là, qui est présent. Et en fait, ce que Habacuc est en train de dire, il est en train de dire, jusqu'à quand ça va durer ça? Parce que ça, c'est pas supposé durer. C'est pas supposé d'être comme ça. Jérusalem est supposée d'être la gloire, là où le nom de Dieu habite, là où c'est la gloire de Dieu qui resplendit à travers Jérusalem, à cause de le temple est là, Dieu habite au milieu de Jérusalem. Et dans les psaumes, on voit souvent la gloire de Dieu qui est chantée dans Jérusalem. Là, ça marche pas, ça, ce que je suis en train de voir là. Il y a de l'injustice, il y a de la méchanceté au milieu du peuple de Dieu, il y a même du péché. Puis Habacuc dit, c'est pas supposé être comme ça, puis jusqu'à quand ça va durer tout ça? Et ensuite de ça, on voit la réponse que Dieu donne dans les versets 5 à 11. Et Dieu, à travers ça, va annoncer le jugement de Juda, va le rappeler en fait. Il va le rappeler à travers Habacuc. Il l'avait déjà dit avant, mais il le rappelle. Et il va dire au verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, qui sont les Babyloniens, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Et là, il va décrire la force de Babylone. Et ça, il va dire au verset 9, « Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. » Et donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, je vais susciter les Chaldéens, les Babyloniens, ce peuple fort, comme il est décrit là, qui est avide de conquête et qui va venir, qui va détruire devant. Et en même temps, verset 11, il dit, il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Et donc, Dieu va susciter un peuple idolâtre pour venir conquérir Jérusalem et détruire son peuple. Et versets 12 à 17, par la suite, on voit que ça fait pas de sens tout ça. Et c'est là qu'on le voit vraiment, le dialogue d'Habacuc, qui va dire à Dieu, « Coudonc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ça? N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. » Ça ne se peut pas, ça, de dire qu'on va mourir. Ça ne se peut pas que le peuple soit exterminé. Il dit, « Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » C'est nous qui devrions être en train d'infliger les châtiments aux autres peuples. Mais là, c'est le contraire qui se passe. Mais pourquoi Dieu fait ça? Verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Alors, Habacuc dit, regarde le méchant qui s'en vient pour nous détruire, puis regarde le méchant qui est au milieu de nous. Tu ne peux pas laisser faire ça. Et là, Dieu va répondre à la suite, je vais juger mon peuple, mais je vais aussi juger Babylone par la suite. J'ai besoin que mon peuple soit puni. J'ai besoin pour que ma gloire et ma sainteté soient connues, j'ai besoin que mon peuple soit puni. Mais par la suite, il va faire une autre adresse dans le chapitre 2. Il va annoncer le jugement de l'oppresseur, le jugement des Babyloniens. Donc, si les yeux de Dieu sont trop peu pour voir le mal, Dieu doit punir le péché, il va le faire, entre autres, en punissant son peuple et en punissant les Babyloniens par la suite. Là, ce qui est intéressant, c'est de constater l'attitude d'Habacuc, parce qu'il est quand même, à travers ses questionnements, un modèle pour nous. Au début du chapitre 2, on va voir que Habacuc, plutôt que user de cynisme envers Dieu, dans un sens, le cynisme va dire, ben là, Dieu n'est pas là, Dieu, il fait rien, finalement, puis... ça donne quoi de croire en Dieu si Dieu n'intervient pas? Fait que finalement, moi, j'abandonne tout ça. Je vais laisser faire la foi en Dieu, ça ne donne à rien. Puis je vais y aller par mes propres forces, je vais essayer de régler ça par moi-même. Souvent, ça peut être comme ça qu'on réagit par rapport aux épreuves, à la souffrance. On en vient à ne pas avoir de réponse de Dieu, mais notre conclusion à nous, c'est plutôt d'user de cynisme, mais de dire Dieu, il n'est pas là, finalement. Il n'est pas là pour moi. Peut-être que vous êtes déjà retrouvé dans des situations comme ça, où vous dites, le Seigneur n'est pas là, puis ça donne quoi, finalement, d'avoir confiance en Dieu dans tout ça? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Habacuc a réagi face à tout ça. Et chapitre 2, au début du chapitre, on voit au verset 1 son attitude. Il dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Et donc, qu'est-ce que Habacuc fait? C'est quoi son attitude par rapport à la réponse de Dieu? Le fait que Dieu semble absent. Il dit, je vais m'arrêter et je vais attendre. Dieu est là, je suis très conscient que Dieu est là, Dieu est intervenu dans ma vie, je l'ai vu agir à d'autres moments, et donc, je vais attendre sa réponse. Puis qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne une réponse. Ça n'a pas pris le temps, peut-être que ça a peut-être été long, mais il était là, puis il attendait en silence la réponse de l'Éternel. Et je ne me souviens pas c'est quel psaume qui dit ça, mais il y a un des psaumes qui dit, c'est bon d'attendre en silence la réponse de l'Éternel. Et comment? Le psaume 37, hein, c'est ça. Et souvent, ça peut être long, ça peut être souffrant, mais c'est bon d'attendre en silence. Parce que la réponse que Dieu donne, elle vient. Dieu donne une réponse, finalement. Et Dieu va donner cette deuxième réponse de Dieu. Là, c'est là que Dieu va dire qu'il va exterminer Babylone. En fait, il va la punir. Chapitre 2, verset 8, « Tout le reste des peuples te pillera. » Et donc, comme tu as répandu le sang des hommes et que tu as commis la violence contre la ville et tous ses habitants, comme toi tu as fait aux autres, je vais faire à toi aussi. Et donc, Dieu va juger Babylone. Et à travers ça, le Babylonien vont se rendre coupables. Ils vont se rendre coupables d'un jugement qui va amener un jugement de Dieu envers leurs mauvaises actions. Chapitre 2, verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Il parle à Babylone ici. Tu as péché contre toi-même quand tu es allé pour conquérir puis faire du mal à mon peuple et aux autres peuples. C'est contre toi-même que tu as péché. Et Dieu va punir Babylone. Et finalement, la réponse que Dieu donne, c'est celle-ci. Je remplirai la terre entière de la connaissance de ma gloire, ainsi que la terre fasse silence devant moi. Verset 2, chapitre 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et juste un petit peu avant, le verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et Dieu est dans son temple. et que la terre fasse silence devant lui. Et ça, c'est l'attitude que nous devrions avoir devant ce Dieu saint qui punit le péché. C'est pas. En fait, on peut poser des questions. Pourquoi à Dieu? Mais souvent, on peut réaliser, on comprend que le mal qui est là autour de nous, c'est les conséquences du péché. Et ça, c'est une des réponses. Pourquoi il y a tant de mal autour de nous? Dieu n'a pas dit son mot, son dernier mot envers le mal puis la souffrance. Les gens autour de nous, comme je disais tout à l'heure, ils se posent des questions puis ils aspirent à voir un monde parfait. Puis ils posent la question, jusqu'à quand ça va durer tout ça? Mais Dieu est intervenu dans l'histoire et il va revenir un jour pour intervenir. Et il n'a pas dit son dernier mot. On est dans la souffrance des fois, dans les périodes de souffrance. Mais un jour, Dieu va venir nous délivrer entièrement de ces souffrances-là. Il a préparé, il est en train de préparer les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il va revenir dans la gloire et la gloire de l'Éternel va être remplie. La terre va être remplie de la gloire de l'Éternel. Alors, Dieu n'a pas donné son dernier mot. Mais ce qu'on voit autour de nous, une des réponses, pourquoi la souffrance, c'est les conséquences du péché. C'est les conséquences du péché et parfois c'est la punition envers le péché qu'on voit autour de nous. Et puisque Dieu est saint, il ne peut pas laisser regarder le péché et le laisser impuni. Et en imputant une punition sur les pécheurs, il est en train de manifester sa gloire. C'est ce que Dieu désire faire. Maintenant, comment on va vivre, nous, à travers tout ça? Le deuxième point dans le message du livre d'Habacuc, le juste vivra par sa foi. Et ça, c'est le verset, chapitre 2, verset 4 qui nous le dit. Une fois que Dieu commence son deuxième discours à Habacuc, il va dire, verset 4, « Voici, son âme s'est enflée en parlant de Babylone, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » La foi, c'est la confiance dans ce que Dieu dit. Cette confiance-là est fondée sur quoi? Elle est fondée sur la parole de Dieu. Juste avant le verset 3, en fait, verset 2 et 3, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie. » Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et donc, les paroles que je suis en train de te dire, écris-les. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et lorsque Dieu dit, le juste vivra par sa foi, le juste vivra par sa foi dans ma parole, dans ce que j'ai annoncé, ça s'en vient. Je vais punir le pécheur, mais le juste, je vais être épargné par sa foi. Et donc, ça ne veut pas dire que tous les justes en Israël ne sont pas morts. Mais on va voir plus loin comment cette parole-là a pris tout son accomplissement dans le Nouveau Testament. Le juste va vivre par sa foi. Et en fait, la foi, c'est de prendre Dieu au mot. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque sa parole nous enseigne quelque chose, je veux croire ce que Dieu dit. Lorsque je promets quelque chose à un de mes enfants, j'ai besoin de l'accomplir. Hein? Les plus petits, là, ça arrivait des fois, je prends une pause sur un petit peu plus longue sur l'heure du dîner. Je m'en vais chercher Nathan qui est à l'école. Je vais dîner avec lui, je vais le reporter, puis je reviens au travail après. Et là, les autres ont su ça. Ah, puis moi, quand est-ce que ça va être ça? À un moment donné, j'ai dit à mon deuxième, Émile, j'ai dit, je te le promets, à un moment donné, je vais aller te chercher au petit bout, parce qu'il va à un petit atelier là, pour la pré-maternelle. Je vais aller te chercher là-bas, puis on va aller dîner ensemble. Ça a été long avant que ça vienne. Fait qu'il me le rappelait. « Quand est-ce, papa, il va venir me chercher pour qu'on aille manger au restaurant? » Il demandait ça à Cynthia souvent. « Ah, oh, papa, il va venir. Il t'a dit qu'il vient. Il t'a dit qu'il le ferait. Il va le faire. » Et à un moment donné, je suis apparu un vendredi midi, puis là, il m'a vu. « Papa! Ma surprise! » Oui, c'est ça. C'est ça. Je t'avais dit que je le ferais. Je vais le faire. Puis moi, qui étais un père mauvais... Dieu, lui, est un bon père. Puis lorsqu'il donne une parole, il l'accomplit. Si elle tarde à s'accomplir, attends-la. C'est ça qu'il dit, verset 3. Tu l'as écrit, ça va s'accomplir. Mais si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir. Donc ça, c'est l'attitude de la foi. Attendre en silence que Dieu intervienne, sachant que Dieu a promis qu'il interviendrait. Ce n'est pas basé sur une foi, c'est pas une foi aveugle, c'est une foi basée sur la parole de Dieu. Et vous savez que Dieu a accompli ses promesses dans l'Ancien Testament. Il en a accompli plusieurs et il veut accomplir encore celles qui s'en viennent, qui ne sont pas encore accomplies. Plus que ça, le verset dans Habacuc 2.4, il est mentionné à trois reprises dans le Nouveau Testament. Et ça annonce que cette parole, le juste vivra par sa foi, maintenant est accomplie. En fait, ce verset dit que même si le jugement de Dieu est certain sur le méchant, Dieu annonce qu'il est possible d'être épargné de la mort par la foi. Pourquoi? Parce que Dieu a apporté une bonne nouvelle qui permet de sauver le pécheur repentant. Et le juste vivra par sa foi, s'accomplit à travers Jésus-Christ. Dans Romains 1, on voit les versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et là, Paul va citer Habacuc 2.4. « Le juste vivra par la foi. » La foi en quoi? La foi dans la bonne nouvelle de l'Évangile qui est venue, que Jésus peut sauver le pécheur. Et le juste va vivre par la foi. Il va avoir la vie éternelle. C'est possible d'avoir la vie, d'être sauvé de la mort lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. Et l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Et c'est par la foi qu'on s'approprie ce salut-là. Le pécheur qui est coupable d'injustice devant Dieu, et comme le dit Romains 3:23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est possible maintenant, par la foi dans l'Évangile, de vivre dans la gloire de Dieu pour toujours. Une pleine confiance dans la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça qui sauve, qui nous permet d'éviter le châtiment de Dieu, le châtiment éternel de Dieu, et de recevoir la vie éternelle. Et donc, c'est la foi en Jésus-Christ, dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, qu'on peut être entièrement sauvé et vivre éternellement. Pourquoi le pécheur est coupable? On va lire ça dans Galates 3, versets 10 à 13. On est tous coupables lorsqu'on n'observe pas toute la loi de Dieu. Et encore une fois, dans Galates 3, Paul va mentionner ce verset dans Habacuc 2. On va lire Galates 3, les versets 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, celui qui ne réussit pas à observer parfaitement la loi est maudit, il est condamné. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et donc, comment le juste va vivre? En observant la loi? Non. En ayant la foi en Dieu, qui nous délivre de la condamnation que la loi apporte sur nous. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et donc, c'est plus comme une manière de dire, si tu veux vivre, si tu veux avoir une vie heureuse, c'est mieux de mettre en pratique la loi de Dieu. Mais si tu désobéis à une, tu es condamné. Et verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et donc, à cause que j'avais péché, j'avais pas observé toute la loi parfaitement, aussitôt que je péchais contre un seul commandement, j'étais rendu coupable de tous, j'étais maudit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité son Fils. Il l'a amené sur la croix. Lui qui était parfait, il a dit « La malédiction va tomber sur lui pour les pécheurs. » Et ce que Dieu a fait à ce moment-là, c'est que plutôt que ce soit moi qui sois maudit, c'est son Fils qui a été maudit. Son Fils avait observé toute la loi, il pouvait être celui qui prenait ma place. Maintenant, C'est par cela, c'est par la croix que Dieu a décidé de montrer sa justice. Le péché a été puni en Jésus-Christ. La malédiction est tombée sur lui. Et maintenant, c'est possible d'être pardonné de nos péchés et de vivre lorsqu'on reçoit par la foi ce que Christ a accompli pour nous. Et donc, notre foi n'est pas dans la loi, mais notre foi est en Jésus-Christ qui nous délivre de la malédiction de la loi. Et on a besoin, tous et chacun, un jour, d'arriver à un point dans notre vie où on dit, je reconnais que je suis pécheur et je suis perdu, totalement perdu, parce que je n'ai pas observé toute la loi de Dieu parfaitement. Je suis maudit. Et je reconnais ça, je reconnais que je suis perdu devant Dieu, mais que la malédiction est tombée sur Jésus-Christ et que par la foi en lui, en regardant vers lui, Dieu me pardonne de mes péchés parce qu'il a porté mon péché sur la croix. Et donc, c'est pour ça que Jésus est venu, Jésus est mort, pour qu'on puisse être délivré de la malédiction de la loi et vivre. Et donc, le juste vivra par sa foi. La gloire de Dieu a été manifestée lorsque le péché a été puni en Jésus-Christ. La sainteté de Dieu a été manifestée au plus haut point. Celui qui méritait le moins d'être jugé, c'est lui. Il l'a fait pour nous, pour qu'on puisse être délivré. Et par la foi en lui, on va vivre. Troisième point, le juste trouvera sa joie en l'Éternel. Finalement, malgré la détresse de son cœur face à l'annonce du jugement, on revient dans Habacuc, là, après un petit peu de parenthèse dans le Nouveau Testament, on revient dans Habacuc. On voit que malgré la détresse du cœur d'Habacuc face à l'annonce du jugement, de l'impureté qui est devant lui, l'iniquité qui est devant dans le peuple, Habacuc va décider de faire silence et de laisser Dieu manifester sa gloire. Et finalement, chapitre 3, fait silence, mais en même temps, trouve sa joie en Dieu. On voit dans le chapitre 3 la prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaintes, et c'est probablement un psaume qui était chanté par la suite. Là. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, et je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. C'est ça que tu as dit, accomplis-le. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Habacuc décide de vivre par la foi. Il y a la foi dans les compassions de Dieu aussi. Il sait que Dieu va apporter le jugement, mais il sait qu'à travers le jugement, Dieu sauve et Dieu fait compassion. Il y a un livre qui a été publié récemment en anglais qui décrit un peu le thème de l'ensemble des Écritures, et c'est la gloire de Dieu manifestée à travers le salut, à travers le jugement. Et donc, à travers le jugement, Dieu apporte le salut. À travers le jugement de Christ, Dieu a apporté le salut. À travers le jugement d'Israël, Dieu va manifester sa compassion envers un reste. Et c'est pour ça que Habacuc plaide au Dieu de compassion. Il dit « Souviens-toi de tes compassions. » Et Habacuc va avoir foi en Dieu dans les compassions qu'il peut manifester. Alors, il choisit de faire confiance dans le fait que Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Et dans les versets, dans le reste du chapitre 3, il va, c'est comme un psaume, et à la fin, il va arriver au chapitre, au verset 16. Il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, encore une fois en silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. C'est pas rose tout ça, là. Voici ce qu'il dit verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher dans les lieux élevés. Au milieu de la détresse, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, comme dirait Jérémie. Je veux me réjouir en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de mon salut. C'est lui qui m'a délivré de mes péchés. Quand on y pense, nous, à la lumière du Nouveau Testament, c'est lui qui m'a délivré de mes péchés. C'est lui qui fait que je peux avoir une relation intime avec lui. C'est lui qui fait que je peux me tourner vers lui puis être secouru dans mes besoins à cause de ce qu'il a accompli en Jésus-Christ. Et en plus de ça, c'est lui qui est ma force. C'est lui qui me conduit à travers la détresse. C'est lui qui me conduit à travers les moments de souffrance. Et donc, Habacuc est prêt à vivre le jour de la détresse et à attendre le secours de Dieu, mais il veut se réjouir aussi à l'avance. Se réjouir que Dieu accomplit sa promesse. Se réjouir que Dieu va délivrer son peuple. Parce que Dieu est un Dieu de salut, un Dieu qui donne la force à son peuple. Et donc, évidemment, Dieu a manifesté son salut, son amour envers son peuple en Jésus-Christ, et on l'a dit tout à l'heure, et a effectivement mis cette parole-là pleinement accomplie en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par exemple, en plus d'être notre sauveur, il est pour nous un exemple de foi au milieu du mal et de la souffrance. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a crié au Père. Si tu permets que cette coupe-là s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsqu'on prend le temps d'y penser, Jésus, là, humainement parlant, là, il ne voulait pas y aller à la croix à ce moment-là, n'est-ce pas? La tristesse, l'angoisse qui était dans son cœur, c'était « Je ne veux pas passer à côté de ça, je ne veux pas avoir à vivre ça. » Est-ce que Dieu a répondu à sa prière, si je peux dire, comme être humain, dans le sens que je veux passer à côté? Non. Il était prêt à faire, Jésus était prêt à faire la volonté de Dieu. Et Dieu ne l'a pas délivré de ses souffrances. Dieu ne l'a pas délivré de la détresse que son âme était en train de vivre. Dieu est même allé jusqu'à l'abandonner. Le Fils a été abandonné du Père. Et s'il y a une injustice, c'est bien elle. Que la Trinité soit divisée à cause du péché, ça, c'est une injustice. Mais Jésus l'a subi. Et Jésus est notre exemple à travers ça. Pourquoi? Parce que même au milieu de la détresse, Jésus va se confier dans le Père. Et qu'est-ce que le Père va faire? Il va le ressusciter. Il va lui donner la gloire pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et finalement, il y a eu à passer à travers cette détresse-là. Mais Dieu lui a donné la victoire à la fin. Et pour nous, c'est la même chose. On va avoir à vivre la détresse, la souffrance. D'où ça vient, cette idée-là, que la vie ne devrait pas avoir de souffrance? Je pense que ça vient de la création. Notre désir de vivre dans un monde parfait. Mais un monde déchu à cause du péché, il va avoir de la souffrance. Mais la promesse que Jésus a faite, c'est qu'un jour il va revenir pour que là où il est, on puisse être avec lui. Et à ce moment-là, il n'aura plus de souffrance. Apocalypse 21, 22, lorsqu'on lit ces beaux chapitres-là, il n'aura plus de larmes, il n'aura plus de souffrance, on va être dans la joie. Il n'y aura même pas besoin d'un soleil parce que la gloire de l'Éternel va briller. Ça va être un jour heureux. Mais on peut se confier dans cette parole-là lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans la détresse. On peut crier « Seigneur, reviens! Reviens bientôt! » Parce que j'ai hâte que ça soit fini tout ça. Mais on veut garder l'espérance en Dieu. On ne veut pas perdre. On sait que Dieu va accomplir sa parole, alors on se confie dans sa parole et on attend sa délivrance qui est certaine. Un jour, Dieu va nous faire ressusciter avec lui. Et donc, à la vue de la souffrance et du mal autour de nous, on peut avoir confiance en Dieu. Même si Dieu semble éloigné, Dieu est en train d'accomplir son plan. Même si Dieu semble loin de nous, son plan, Dieu n'a pas dérogé de son plan. Il continue de s'accomplir. Et on peut avoir confiance dans ce plan-là. On l'a entre nos mains. Puis on peut aller lire plus souvent Habacuc, peut-être, ou les Lamentations de Jérémie, lorsqu'on est dans la souffrance, pour apprendre à se confier en Dieu comme eux l'ont fait. Et peut-être même des fois questionner Dieu. Pourquoi ça, Seigneur? Mais finalement, le Seigneur va dire, ben, c'est ça la vie, mon pète. Un jour, ça va être fini. Je vais revenir. Puis dans un sens, on veut croire fermement que Dieu utilise le mal et la souffrance pour nous montrer que nous avons besoin de lui. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on oublie. Des fois, quand ça va bien, pas besoin de vraiment me confier en Dieu, les choses vont bien. Mais là, quand le mal vient, la souffrance vient, là, on a tendance à plier un petit peu plus le genou, à venir devant Dieu. Mais je pense que Dieu se sert de ça aussi pour nous dire, « T'as besoin de moi? » Vis pas tout seul de ton bord, viens à moi, viens pour être secouru. Et Dieu est là et Dieu va accomplir ses promesses. Il va entendre nos prières. Il va y répondre. Et dans un sens, ce qu'on a besoin de faire, c'est au milieu du mal et de la souffrance, réaliser qu'on a besoin de Dieu. Et ça, c'est pour n'importe qui, je dirais. C'est bon pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Quand tu vois le mal, la souffrance autour de toi, ça fait juste te montrer que, en fait, tu as besoin de Dieu. Dieu va accomplir son plan. Il va avoir un monde meilleur, puis tu es bien mieux d'être avec lui, de son bord. Alors, à la vue du mal, de la souffrance, plions le genou devant Dieu qui est souverain, qui nous donne, qui nous sauve de la détresse. Et donc, prions que Dieu garde nos cœurs dans la foi au milieu de l'épreuve. Ça, c'est important. Plusieurs vont parfois, je dis plusieurs, peut-être plus certains vont abandonner la foi au milieu de l'épreuve. J'ai crié, tu n'as pas répondu. J'ai prié Dieu, il ne s'est jamais manifesté. Pour moi, c'est fini cette histoire-là. Mais prions que Dieu garde nos cœurs à nous. Seigneur, si la souffrance, là, moi, ça va bien. Là, ça va bien, mais si la souffrance vient un jour, je ne veux pas t'abandonner. Disons-le au Seigneur. Moi, je ne veux pas t'abandonner, Seigneur. Je veux rester avec toi. Je vais te suivre partout. Oui, mais s'il arrive ça, tu vas-tu rester? Je veux, c'est ça, je veux. Alors aide-moi, Seigneur, je veux rester accroché à toi à travers l'épreuve. Et finalement, comme je l'ai dit, on peut avoir confiance qu'un jour, Dieu va nous délivrer entièrement du mal, de la souffrance, parce qu'il l'a promis. On a hâte à ce jour-là, hein? N'est-ce pas? Et je pense que c'est bien de s'en rappeler. Souvent, on n'en parle pas assez. On ne le dit pas assez dans nos prières. Seigneur, j'ai hâte à ton retour. On a tendance à penser plus. On est terrestre. On pense à la terre, puis on aimerait ça que ça aille mieux maintenant. Regardons à l'espérance que le Seigneur a préparée pour nous. Puis rappelons-le. Ah, c'est un jour, Seigneur, tu vas revenir. Ah, ça va. J'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être rendu là. Parce que ici, la vie, présentement, c'est ça que tu permets, mais la vraie vie, c'est quand on va être avec toi pour toujours. Alors, il faut s'en rappeler. Un jour, on va être réellement délivré de nos épreuves, puis un jour, on va voir Dieu tel qu'il est, puis on va se réjouir parfaitement en lui. Y a-t-il des questions? Il reste un petit 5 minutes. Y a-t-il des questions suite à ça? Des questions sur Habacuc ou ce qu'on a vu? Oui. Oui. Dans le chapitre 1. OK, juste aller voir le verset exactement, juste pour m'assurer que je réponds bien. Avez-vous le verset? Dans le chapitre 1, entre autres, et chapitre 2, OK. Oui. Oui. Ah, OK. Oui, c'est ça. Dans un sens, là, il est en train vraiment de parler d'un malheur qui va arriver à Babylone. Donc, Babylone probablement faisait boire son prochain, puis le saoulait pour le conquérir, probablement. Il y avait cette idée-là. Fait que Dieu va annoncer le malheur à ça. Personnellement, je ne pense pas que dans les Écritures, il y a d'instructions par rapport au fait de boire du vin. Là où il y a des instructions, c'est par rapport à en abuser. Là où, entre autres dans Éphésiens 5, 18, je pense, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Donc, je pense que comme chrétien, on doit éviter de s'enivrer, mais ce n'est pas défendu d'en boire. Parce qu'on peut en boire, mais il faut y aller avec, comme on dit dans notre société, avec modération. Et dans un sens, le but de ça, c'est d'être, il dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors le but, c'est quoi? C'est que ce qui me contrôle, ce n'est pas les effets de l'alcool, mais ce qui me contrôle, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand on abuse, on perd le contrôle parfois. Et moi, j'applique ça à les drogues, à toutes sortes de choses qui permettraient que je ne sois pas rempli de l'Esprit de Dieu, puis en train de glorifier Dieu. Oui, non, j'ai pas de problème à prendre un verre de vin ou une bière de temps en temps. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'on en abuse. Et puis, ouais. Mais on le voit ici, ça c'est plutôt, c'est vraiment comme un jugement sur Babylone. Ici, c'est plus le... dans un sens, les horreurs qu'il est en train de faire. C'est bon? On va se courber avec un mot. On va se courber, on va dire un mot de prière, puis après ça, on va louer le Seigneur ensemble. OK? Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, parce que ta parole s'accomplit. On voit dans l'Ancien Testament, Seigneur, que tu annonçais longtemps d'avance qu'un jour tu apporterais la délivrance. La délivrance qui est en Jésus-Christ. Les disciples, Seigneur, attendaient la délivrance d'Israël, une délivrance physique, mais toi, ce que tu annonçais, c'est une délivrance spirituelle, parce que le plus grand mal, Seigneur, c'est nos péchés. Notre horreur, ces horreurs qu'on a commises, Seigneur, en désobéissant à ta loi, qui sont devant ta face, nous amènent à être châtiés, punis, condamnés éternellement à cause de cela. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu as envoyé ton Fils Jésus qui est venu prendre nos péchés, notre malédiction sur lui à la croix. Et maintenant, lorsqu'on se détourne de nos péchés et qu'on accepte par la foi ce salut si merveilleux, Seigneur, tu nous donnes ta justice. Toi, tu avais observé parfaitement la loi. Et cette justice, tu nous la donnes lorsqu'on a la foi en toi. Seigneur, merci pour ce cadeau merveilleux. Merci parce que maintenant, on peut s'approcher de toi en toute confiance. On n'a pas à craindre d'être condamné parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Mais on peut se confier en toi lorsqu'on voit le mal, la détresse, les souffrances autour de nous. Seigneur, on peut se tourner vers toi parce que tu es un Dieu en qui on peut avoir confiance, qui accomplit sa parole. Aide-nous, Seigneur, à rester accrochés à toi et à nous réjouir en toi malgré les épreuves, parce que ta parole va s'accomplir un jour, on va être avec toi pour l'éternité. Et on a hâte à ce jour-là, Seigneur, et aide-nous en attendant à garder la foi et à persévérer en toi à travers les différentes épreuves et que tu places sur notre chemin afin qu'on puisse te voir un jour et être avec toi pour l'éternité. Merci pour ce temps dans ta parole, Seigneur. Merci parce que tu m'as béni cette semaine par cette étude et ma prière, c'est que tu puisses faire germer cette semence dans mon cœur afin que je sois un homme de foi qui place sa confiance en toi malgré tout. Fais que ton Église aussi, Seigneur, puisse être une Église qui a la foi au milieu des épreuves et qui place sa confiance en toi entièrement, non pas dans des moyens humains, mais en toi seul qui est notre force et notre salut. Seigneur, merci encore une fois et que ton nom soit glorifié à travers cette célébration qui s'en vient et que ensemble on puisse avoir un cœur tourné vers toi et te louer de tous nos cœurs. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.